15h02 à Boulevard 102.1. Bon, mes collègues rient de moi encore une fois.
Jamais.
Je vous dis, c'est un été. C'est pas un été de boulevard, c'est un été de boulie.
C'est ça. Pas vrai, j'ai fait rire. Boulivard.
Bon, c'est parce que des fois, entre les micros, on mange des petites collations. Puis moi, j'étais habitué de travailler dans la station Sœur, week-end. On a un petit peu plus de temps. Parce que, tu sais, des fois, il y a une pause, puis après ça, il y a une chanson, puis il y a une... Puis là, j'ai vraiment mangé une noix de cachou au mauvais moment, c'est-à-dire 2 secondes avant d'ouvrir les micros.
Mauvais choix.
Mauvais choix. Très, très mauvais timing. Mais, bon, écoutez, faut se nourrir. C'est important de se nourrir dans la vie, mais on va en reparler, ça, justement, un peu plus tard, de l'importance de se nourrir. On avait plusieurs questions, et vous la connaissez parce que c'est une collaboratrice ici à Boulevard, Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue, qui est avec nous en studio. Allô, Élise?
Bon après-midi à tous.
Très bon après-midi à toi aussi. Merci de prendre le temps de venir répondre à nos questions. A priori, on a eu l'idée de communiquer avec toi parce que j'ai vu 2-3 choses assez intéressantes passer la semaine dernière. Oui. Non, c'est pas la semaine dernière, c'est au début de la semaine.
Oui.
C'est-tu mêlant, ce maudit congé-là? Au début de la semaine concernant la crise des opioïdes,
oui,
au Québec et au Canada en général. Mais avant ça, on avait d'autres questions aussi concernant l'urgence. Puis la première, c'était de quoi ça a l'air l'urgence le 1er juillet?
D'une journée d'été relativement banale, contrairement à nos 24 juin, 23, ben, la nuit du 23 au 24, le 24. Puis là, en fait, là, on a eu beaucoup de balles aussi dans les derniers jours avec leurs conséquences. C'est assez, je te dirais, tranquille. Ce qu'on voit, c'est les accidents de déménagement plus que d'autres choses. Puis souvent, c'est plus le 2 juillet, en fait, donc aujourd'hui.
Okay.
Écoute, la journée même, ils s'en rendent pas compte, ils sont sur l'adrénaline, puis le lendemain, ça fait encore mal.
Oui, ou il faut que tu finisses ton déménagement. Fait que tu te dis, je vais terminer et demain, j'irai consulter. Donc, c'est souvent ça. Mais j'ai un collègue albertain qui me disait que eux, leur 1er juillet, dans le Rock, le Rest of Canada, c'est leur 24 juin.
Ouais, c'est
leur journée de broche.
J'suis tellement un peu. On le sait pas, on le constate pas. Nous autres, ici, on le vit pas de cette manière-là. Nous, on voit les célébrations du fédéral, genre aller manger du gâteau sur la terrasse du frein, puis une coupe de concert un peu tranquillos. Puis on voit même habituellement la célébration à Ottawa qui hier a été annulée, puis c'est jamais le gros party. Mais d'un autre côté, si on regarde nos shows de la Saint-Jean qui passent à la TV, ça donne pas le goût non plus de faire la fête, là.
Ça, c'est peut-être un effet télé.
Oui, je pense que c'est
l'effet télé. Peut-être.
Pas, nous, on a 2 célébrations aussi à une semaine d'intervalle. Ouais. Fait que les gens probablement se disent, tu sais, je vais fêter, je vais aller voir le show de la Saint-Jean, puis peut-être moins celui du Canada. Mon collègue, il disait que c'est une des journées les plus achalandées à Edmonton. Ben, l'autre chose aussi qui est non négligeable, qui est très mignon, le 1er juillet, et ça, c'est comme ça en Amérique du Nord, donc c'est pas juste canadien, c'est aussi aux États-Unis. C'est la première journée de nos bébés docteurs, donc les médecins résidents, quand on commence notre programme de résidence en médecine de famille, chirurgie générale, chirurgie cardiaque, name it, c'est le 1er juillet. Fait
que
tous les bébés docteurs arrivent le 1er juillet, oui. Il y a même déjà eu des études qui avaient un taux de mortalité légèrement augmenté dans nos hôpitaux en Amérique du Nord parce que c'est des médecins résidents moins expérimentés. Donc, ils arrivent avec leur bonne volonté, leur livre et ils ont des grandes responsabilités. Moi, je me rappelle très bien par cœur ma nuit du 1er juillet que j'étais de garde au CHUL ici à Québec. Et oui, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un phénomène que pour les patients, pour le commun des mortels, on s'en fout complètement. Mais pour tout le monde en Amérique du Nord, là, moi, sur mes réseaux sociaux de docteur, c'est
effervescence.
Comme « Bienvenue, les nouveaux! » Puis on est comme « Yeah! » Oui, fait que ça, c'est le fun.
C'est quand même drôle, ça.
Fait que c'est ça, d'une pierre deux coups en même temps. Est-ce que sur la Saint-Jean, parce que tu en as parlé un peu de ça, est-ce que c'est moins pire qu'avant?
Oui. Moi, je trouve que oui.
Le fait qu'on a pris la décision avec le maire Labeaume il y a quelques années d'arrêter, d'accepter cette beuverie à ciel ouvert qui avait lieu en ville sur les plaines où, je me souviens d'avoir fini des soirées, Élise, là, où on ne voyait plus grand aller. C'était un tapis de canettes de bière écrasées à grandeur de la Grande Allée. Fait que je suis quand même content d'apprendre que c'est moins pire un peu aujourd'hui.
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs phénomènes. Je pense que ça, sûrement les décisions politiques de nos maires, gouvernements ont aidé. L'autre affaire, c'est que l'alcool est de moins en moins populaire chez la jeune.
Chez les jeunes, ouais.
Exactement.
La brosse est moins populaire, point. Hein?
Exactement. Fait que je pense que c'est aussi un phénomène de société. Moi, tu sais, puis je vous parlais des balles. Ben oui, on voit encore des jeunes qui ont malheureusement consommer trop vite trop d'alcool, mais je trouve que c'est moins pire qu'avant. T'sais, on en a toujours un ou deux qu'on surveille de près, etc., que les parents viennent chercher, puis là, c'est le walk of shame, puis tout ça, mais il me semble que je recule il y a 10-15 ans, on en avait beaucoup plus. Fait que oui,
fait qu'on peut se faire un high-five collectif.
High-five collectif. Bravo.
Fait que les mœurs changent aussi. On avait une autre question pour toi. Ça, je pense que c'était de ton côté, Antonine, hein, cette question-là.
C'est une question un peu différente, mais je me demandais, quand on a quelqu'un dans notre entourage qui ne veut pas aller voir le médecin, qui ne veut pas aller à l'urgence quand c'est urgent ou qui ne veut juste pas consulter, même si on a vraiment l'impression qu'il y a des soucis de santé, comment on peut faire pour convaincre quelqu'un? Puis là, j'ai envie d'être un petit peu plus stigmatisante, là, mais souvent, c'est des messieurs d'un certain âge.
Oui.
Ils ont pas vu de médecin depuis 1973. Puis là, on leur dit, c'est parce que t'as vraiment une grosse tache sur le nez, genre, faudrait que tu y ailles, là, faire vérifier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les convaincre?
Souvent, c'est dans je te dirais, mon expérience, puis on veut pas être dans les préjugés, mais je te dirais que c'est un classique, là. Monsieur d'un certain âge qui a pas consulté depuis plusieurs années, puis clairement, il y a quelque chose qui se passe, puis là, conjointe, enfant, tout le monde est un peu inquiet. Souvent, ces messieurs-là, règle générale, c'est qu'ils ont archi peur de se faire annoncer une mauvaise nouvelle.
Ouais. C'est de la peur.
C'est de la peur. Ils sont anxieux, ils sont stressés, ils veulent pas se faire dire qu'ils ont le cancer.
Ils se doutent qu'il y a peut-être un petit quelque chose.
Exactement. Puis l'autre chose que j'entends fréquemment, c'est « je voulais pas déranger ». Ça, c'est assez facile à contre-argumenter. On dérange jamais. Vous avez le droit, vous avez payé des impôts ou pas, mais vous avez le droit de consommer.
Par contre, ça fait 5 ans qu'on nous dit « éviter l'hôpital le plus possible, parler à votre pharmacien, aller voir le moyen du bord ». Fait que tu sais, ceux qui, par défaut, sont pas enclins à y aller, vont encore moins, je trouve, avoir le goût d'y aller. Leur principe de déranger, oui, mais là, c'est pas urgent. Ils iront pas plus.
Mais tu sais, là, c'est ça que je suis urgentologue, fait que j'ai un biais. C'est pas d'aller à l'urgence. C'est, oui, c'est pas parfait, mais reste que le 811, le guichet d'accès première ligne, donne des rendez-vous non urgents, même pour des patients orphelins, un peu plus qu'avant. Est-ce que c'est parfait? Non. Il y a de l'accès quand même un peu. C'est sûr que un des phénomènes que je vois beaucoup, c'est que les gens attendent tellement longtemps que là, c'est justement samedi, le 3 juillet à 8 heures le soir que là, on règle ça. Mais là, ça se peut que vous n'ayez pas de rendez-vous électif ce soir-là, par contre. Puis là, c'est sûr que si vous venez à l'urgence, puis moi, souvent, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que je ne peux même pas donner le meilleur des services parce que je ne fais pas de suivi, parce que j'ai un plateau technique qui n'est pas disponible. Mais même si vous venez un samedi, 3 juillet à 8 heures, on va vous prendre en charge. L'autre chose qui aide, c'est vraiment d'essayer de comprendre de pourquoi, tu sais, la peur en dessous, là, d'aller, tu sais, inquiète-toi pas, ça va bien aller, inquiète-toi pas, tu sais, ça veut pas dire que, oui, je suis inquiète, mais ça veut pas dire que c'est quoi de grave. Puis au pire, tu vas te faire dire que tout va bien, puis tu es en parfaite santé. Fait que c'est essayer d'aller gérer cette peur-là sous-jacente, souvent, qui va rentabiliser. Puis pour de vrai, le 8-1-1, oui, des fois, c'est long à attendre la ligne, mais ils sont vraiment bonnes pour justement rassurer puis essayer de convaincre, bien, pas essayer de convaincre tranquillement puis d'aller travailler cette peur-là. Moi, je trouve que c'est deux trucs qui aident.
L'autre question, c'est parce que moi, ce matin, quand j'ai vu les images de ça et cette nouvelle-là, on a suivi quand même pas mal là, les tremblements de terre du côté du Venezuela. On est rendu à 2000 morts, une des dizaines de milliers de personnes qui sont encore disparues. Puis, tu sais, on sait là, qu'avec le temps, les disparus vont devenir des décès parce qu'on ne sera pas capable de leur venir en aide ou encore il est déjà trop tard. Ils ont réussi à aller chercher un survivant de 43 ans qui a survécu 8 jours dans les décombres. Dans quel univers ça se peut? Puis, tu sais, on peut aller jusqu'où, justement, avec une survie dans un contexte comme celui-là?
Excellente question. Premièrement, il y a plusieurs facteurs. L'environnement. S'il fait pas trop chaud, mettons, ça s'est écroulé, mais il y a une petite poche où il y a quand même un petit peu de place pour bouger. Il est
pas prisonnier.
Parce que lui,
ça semble être un stationnement souterrain, de ce qu'on comprend.
C'est ce que j'ai lu dans l'article, effectivement. Donc, déjà là, s'il n'est pas, mettons, la jambe écrasée ou des choses comme ça qui fait qu'il y aurait une blessure qui serait clairement dangereuse pour sa vie, c'est des facteurs favorisants. Après ça, biologie 101, groupe, si vous vous en rappelez, combien de jours on peut vivre sans eau?
Pas longtemps. Sans eau, ça peut pas être même plus que 48 heures.
C'est proche.
3 jours.
Exact. 3 à 5 jours.
3 à 5 jours sans boire.
Comme dirait Zoolander, l'hydratation est l'essence de la beauté et aussi de la vie. Oui. Donc, c'est 3 à 5 jours, mais sans manger. Mettons que vous avez accès à de l'eau, mais vous ne mangez pas.
Moi, j'avais entendu 3 semaines.
1 à 3 mois.
Hein?
Ouais.
Tu peux 1 à 3 mois, pas de bouffe, avec juste de l'eau?
Oui, parce que c'est là où la biologie embarque. C'est que vous allez vous autodigérer, littéralement.
Ah, super!
Oui, et particulièrement si vous avez un peu de tissu adipeux, en fait, ben, c'est un facteur de protection parce que, grosso modo, c'est que vos cellules vont se mettre à digérer votre graisse, puis après ça, ils vont digérer votre muscle, puis vous allez vous autodigérer, ce qui est un peu bizarre quand on y pense. Mais l'hydratation en soi, l'eau est essentielle à la vie. Donc, 3-5 jours, mais l'absence de nourriture, produire de l'énergie, votre corps est capable de faire ça vraiment très longtemps. Et pour répondre à la question, parce que j'allais chercher le survivant, c'est qu'ils ont fini en fouillant les décombres d'entendre la personne, puis ils ont été capables d'y envoyer de l'eau. Fait qu'ils buvaient. Ah. Et ils ne mangeaient pas. Fait que c'est probablement comme ça qu'ils ont réussi à survivre plusieurs jours. C'est qu'ils ont réussi à y envoyer dans un tuyau, je ne sais pas trop, de l'eau pour qu'ils s'hydratent. C'est la seule façon explicable et probablement qu'ils n'étaient pas blessés gravement parce que c'est l'autre chose. Si vous avez une fracture ouverte, ben, même si on vous envoie de l'eau, 8 jours, c'est un peu trop long. Probablement qu'ils étaient. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils devaient être en bonne santé, pas prendre des médicaments, etc., etc. Fait que,
il n'y avait pas d'enjeu, c'est ça, parce que quelqu'un qui est diabétique, par exemple, dans une situation comme celle-là, malheureusement, c'est ça ne pardonnera pas non plus. Donc, ce qu'on comprend, c'est que dans l'équipe ici, c'est moi qui ai le plus haut taux de survie, les filles. Si on y va en termes de graisse adipeuse,
on n'embarquera pas là-dedans. Là.
C'est moi qui gagne ici. A priori, quand on a communiqué avec toi, je vous le rappelle, on est avec Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue, qui intervient souvent à l'antenne ici au 102.1. C'est que j'ai vu passer différentes informations concernant la crise des opioïdes. On entend parler de ça beaucoup dans les dernières années. C'est quelque chose qui n'existait pas, moi, j'ai l'impression, quand j'étais petit, ou du moins, on n'en entendait pas parler de cette problématique-là, voyons donc. Moi, j'ai découvert les enjeux liés à ça avec une super série qui s'appelle Dope Sick.
C'est-tu bon, ça, sur Disney+?
Avec Michael Keaton sur Disney+, qui raconte l'histoire d'un médecin qui se fait convaincre par une pharmaceutique de prescrire médicaments avec opioïdes et se rend compte que les effets sont instantanés. C'est des gens qui ont des maux de dos, des problèmes de hanches depuis des années et des années. Ça règle pratiquement les problèmes, sauf que rapidement, il se rend compte qu'il est obligé d'augmenter les doses tout le temps un peu, finit par en prendre lui-même et finit par devenir complètement accro. Il commence...
Tu sais que c'est basé sur une histoire vraie, hein? Une vraie poursuite, parce que la pharmaceutique avait carrément dit « Hey, c'est fantastique parce que c'est des antidouleurs qui ne créent pas la dépendance. » Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça s'est prescrit quasiment à outrance, entre autres, dans des milieux où les gens travaillaient très physiquement. Fait qu'il y a des communautés qui ont été affectées du côté des États-Unis. C'est d'une tristesse, là.
Puis t'as raison de dire que c'était peut-être pas si présent quand tu étais plus jeune, parce qu'en fait, ce que vous racontez là, l'histoire de Dope Sick, la série, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que l'oxycontin, donc l'oxycodone à longue action, la compagnie pharmaceutique, c'est exactement ce que tu viens de dire.
C'est Purdue Pharma, je donne
exactement.
Moi, hein?
A minimisé l'impact de la dépendance. Puis une des hypothèses de la vague des opiacés, c'est que, entre autres, c'est quand ils ont commencé à avoir des problèmes puis qu'ils ont arrêté de produire la médication et les compagnies d'assurance ont arrêté d'assurer, les gens étaient tellement accros qu'ils se cherchaient donc de la drogue, puis c'est des opiacés. Donc l'héroïne, la morphine, l'oxycontin, c'est toute la même grande famille des opiacés. Puis là, bien évidemment, hein, le monde étant le monde, bien les malfaisants, les malfrats se sont mis à créer, en fait, le fentanyl, entre autres, qui est un médicament que j'utilise à l'urgence à toutes les semaines. Mm-hmm. Les anesthésistes en utilisent plusieurs fois par jour. C'est un opiacé, ça aussi, qui est très puissant. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que on appelle ça un opiacé de synthèse. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire pousser le pavot, là, contrairement à l'héroïne qui vient de la plante. Vous pouvez tout faire ça avec des produits chimiques puis un laboratoire clandestin, produire ça et vendre ça sur le marché noir. Fait qu'il y a eu vraiment cette courbe-là en même temps, là, fin des années, début des années 2010, 2012, 2015, où on a eu la crise de l'oxycontin aux États-Unis et l'arrivée du fentanyl sur le marché noir, qui est arrivé, entre autres, de l'Asie vers la Colombie-Britannique.
Fait que là, pour faire une image encore avec une autre série, ce que t'expliques, c'est Breaking Bad.
Exact.
C'est un peu ça. C'est vraiment des labos clandestins où on est en mesure de produire cette drogue-là qui fait des ravages. Là, j'ai vu qu'il y avait un recours collectif en ce moment. Les gens ont jusqu'au 31 juillet pour présenter leur cause, en fait, au retour à ce recours-là collectif. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-François Bourassa qui a décidé, lui, de devenir le visage de ce recours collectif-là. Un monsieur qui a fait une chute d'un toit en 2005 s'est vu, exactement comme l'histoire de Dope Sick, prescrire des opioïdes et il y a une dépendance qui est née de ça, malheureusement. Mais on parle de cette crise-là, puis on en a entendu beaucoup parler à cause de Donald Trump, tu sais, qui nous critiquait par rapport au fait que ça passait par le Canada, puis c'est de notre faute,
fallait
ça rentrait.
Fallait nommer un tsar du fentanyl.
Fallait absolument avoir un tsar, c'est ça, du fentanyl. Mais à quel point, est-ce qu'on a des chiffres sur cette crise-là? À quel point il y a des gens qui décède, puis à quel point c'est important de se renseigner sur cette petite trousse-là qui est disponible à la pharmacie, puis savoir comment l'utiliser. Ça se pourrait-tu que ça m'arrive en sortant du bureau, que je tombe face à face avec quelqu'un dans un char qui est en crise, tu sais?
J'avoue qu'ici, le secteur est moins propice. Ah, mais clairement, il y a des endroits dans la ville de Québec que la réponse, c'est oui. Et là, encore une fois, j'ai un petit quiz pour vous parce que une des choses, moi, qui me frappe comme humaine, citoyenne et aussi comme médecin, c'est les chiffres par rapport aux décès et le fait qu'on investisse probablement pas tant en prévention, etc., etc., versus d'autres secteurs de la santé. Puis là, c'est là où je vous pose des questions. En 2023, combien il y a eu de décès reliés aux opioïdes au Canada en milliers?
Et je sais tellement pas.
En milliers?
50 000?
Moins que ça. Okay, 7 000. Mais c'est quand même beaucoup.
7 000 au Canada.
Oui. Okay. Mais là, c'est parce que je veux vous le comparer par rapport au nombre de décès reliés aux accidents de la route. Parce que, tu sais, des publicités pour les accidents de la route, la prévention, beaucoup, c'est des millions et des millions de dollars. 1900. Hein? Fait que c'est trois fois moins, en fait, à peu près. Puis là, je suis comme, Colin, me semble que puis là, je regardais après ça, OK, certains cancers qu'on entend encore une fois, des pubs, de la publicité, de la prévention, etc. Cancer du sein, c'est 5 400 décès pour la même année. Cancer de la prostate, 4 700 décès. Donc, la crise des opiacés a tué plus de monde que le cancer du sein, le cancer de la prostate ou les accidents de la route. Et pourtant, quand on regarde dans les programmes de prévention gouvernementaux de santé, on a l'impression qu'on fait pas grand-chose, entre guillemets, ce qui est une des choses, moi, qui m'attriste grandement.
Mais c'est-tu pourquoi?
C'est une population vulnérable qui est à risque, puis est-ce qu'on est plus dur à... Un stigmate ou est plus dur à rejoindre, ou on a lâché prise, je sais pas.
Je pense que la stigmatisation est importante, puis c'est là où le recours collectif, je pense aussi, permet de sensibiliser. Je le souhaite pas, mais malheureusement, si vous vous blessez, si vous vous cassez une jambe, là, je vous disais que j'utilisais du fentanyl puis des opiacés, c'est la médication contre la douleur qui existe pour vous soulager à l'urgence. Le problème, c'est que ça se peut que ça va vous créer une dépendance puis vous allez être accro après ça pour des années. Mais moi, dans ma boîte à outils à l'hôpital, j'ai pas d'autres options.
Ouais. Okay.
Fait que, premièrement, justement, je pense que la stigmatisation, il faut un peu la défaire. Puis
arrêtez de penser que c'est juste des junkies.
C'est pas... Oui, malheureusement, il y a des junkies, mais ça peut être à n'importe qui que ça
paraît. D'accepter aussi que des dépendances, c'est une maladie. Ouais, c'est juste, on les traite comme des criminels, c'est des déchets de la société. Ben non, c'est du monde comme vous et moi qui peuvent, à un moment donné, avoir une bad luck dans leur vie, avoir commencé une médication, puis subir une dépendance.
Bien, exactement comme M. Bourassa, là, qui est présenté dans un super topo du côté de Radio-Canada. Ce gars-là travaillait sur la construction. On voit des photos de lui en 2005. Un grand garçon qui paraît bien, un gars qui est en pleine forme aussi physiquement. Clairement, travaille physiquement aussi, on peut le voir. Tu sais, il y a des photos de lui à la plage avec ses enfants, quelqu'un qui est actif, qui est physique, qui est mobile. Tabarouette, il est tombé d'un toit. Ouais. Il est arrivé à un accident en 2005, il s'est fait prescrire ça, puis après ça, ben, l'autre côté de la pause, il est sombré dans l'enfer de la drogue, là, malheureusement.
Il est allé
là.
Se faire enlever les dents de sagesse. Il est reparti du cabinet de dentiste avec 30 caplets d'oxy. J'ai pogné ça comme... Tu sais, puis quand t'es en haut de 14 ans, là, tu vois rien passer, là. Je pogne ça dans le corridor. Comment ça se fait qu'il t'a donné 30 caplets d'oxy?
Ben, écoute...
J'ai enlevé, j'ai donné un petit pot de Tylenol.
Ben oui.
À un moment donné, là, c'est comme si il y a eu une époque où on donnait ça comme des bonbons. Là, puis je veux pas faire de clichés, mais c'est sûr que le documentaire est assez dur aussi sur comment le système pharmaceutique puis la relation avec les médecins. À un moment donné, on a poussé cette médication-là.
Ça, c'est une question aussi que j'ai, puis je veux pas que ça sonne complotiste, mon affaire. Là, mais tu sais, dans le fait qu'on fait pas tant de pubs puis tant de prévention, est-ce que ça se peut que les pharmas aussi jouent en ce sens-là puis font peut-être du lobby pour éviter qu'on leur mette des bâtons dans les roues, tu sais.
À notre niveau, au niveau des médecins terrain, zéro puis une barre. Non, moi, j'ai jamais vu de compagnie pharmaceutique, même quand c'était l'époque où l'oxycodone, tu sais, moi, je pratiquais, je n'ai jamais vu passer au Canada. C'est vraiment beaucoup plus strict qu'aux États-Unis. Ça, c'est une des choses. Là. Puis au Québec, c'est strict de chez strict à comparer partout ailleurs en Amérique du Nord puis en Europe. Fait que les médecins sont extrêmement réglementés pour ne pas avoir d'argent, de lobby de la part des compagnies. Après ça, à plus haut niveau, est-ce qu'il y en a? Eux le savent pas.
Okay.
Mais un autre bon point d'Antonine que je voulais souligner, c'est aussi le fait qu'il y a très peu d'études. Tu sais, quand tu dis la dépendance, que ce soit à l'alcool, que ce soit aux drogues, quand Lynn, qu'on n'a pas beaucoup d'études scientifiques, il y a probablement plus d'études scientifiques sur le Viagra, Colbin, que sur la dépendance aux opiacés. Ce qui est un peu triste. Puis encore une fois, on veut pas être complotiste, mais c'est sûr qu'il y a de l'argent à faire à vendre des pilules pour pouvoir avoir, ne plus avoir de problèmes érectiles, mm-hmm. versus, encore une fois, avec la stigmatisation. Puis, c'est pas drôle, là, les décès reliés aux opiacés, c'est ce qui fait diminuer l'espérance de vie en Amérique du Nord depuis 5 ans, parce que c'est des jeunes personnes qui décèdent. Puis, ce que je lisais en préparant la chronique, c'est que cette crise-là du fentanyl puis des opiacés, l'espérance de vie en moyenne des gens en décédaient, c'était 45 à 50 ans. Puis maintenant, c'est entre 30 et 35 ans. C'est des jeunes adultes qui en décèdent, puis on n'est pas capable de les sauver. C'est sûr que là, l'article disait, bien, ça s'améliore un peu, tant mieux. Effectivement, tant mieux. Au Québec, on est relativement protégé. C'est vraiment dans l'Ouest que ça se passe. La Colombie-Britannique, c'est environ 60 à 70 % des décès au Canada. N'en demeure pas moins que je suis contente qu'on en parle parce que c'est vraiment quelque chose de santé publique. Puis je pense qu'il faut justement enlever les stigmates, être conscient que si votre enfant arrive avec un pot de 30 oxycodone...
Ou même vous, là!
Ou même vous, c'est... Tu sais, moi, je fais vraiment plus attention. Puis... on se sent dépourvu comme docteur devant des gens qui ont des douleurs chroniques parce qu'on n'a tellement pas beaucoup à offrir.
On veut les soulager.
Ça, on veut les soulager, les gens. Là, on est là pour les aider. Fait que ça devient un peu frustrant. Mais malgré tout, ça s'améliore. Mais je pense qu'il y a encore des choses à faire du côté gouvernemental, du côté justement de sensibilisation, autant au niveau médical qu'au niveau des citoyens.
Hey, on a reçu une question par texto. Il y a eu des éclosions de rougeole récemment. Il y a quelqu'un qui nous demande...
On est à 7 cas dans le secteur de Portneuf. C'est 5 nouveaux qui ont été confirmés un peu plus tôt aujourd'hui.
Je travaille avec plusieurs personnes du secteur où il y a eu éclosion de rougeole. Est-ce qu'il faut agir d'une façon particulière pour se protéger, j'imagine? Là?
Oui, en fait, ça tombe bien que j'avais justement lu mes courriels de ma directrice d'hôpital parce qu'on avait reçu les avis ce matin. En fait, effectivement, il y a eu des nouvelles éclosions dans la région de Capitale-Nationale. Si vous avez été, vous pensez avoir été en contact, vous avez été dans... Parce qu'en fait, là, si vous allez sur le site là, de la santé publique, vous pouvez cliquer sur « Zone des éclosions ». Vous avez l'adresse là, à Pont-Rouge, le Super C à Portneuf. Vous avez vraiment toutes les adresses où il y a eu quelqu'un qui malheureusement avait la rougeole et aurait pu être vous contaminer. Bon, si vous êtes vacciné, pas de panique, on vous considère comme protégé. Si vous êtes inquiet à savoir est-ce que je suis vraiment vacciné, puis tout ça, vous pouvez appeler au 811, ils peuvent vérifier. Fait que ça, c'est la première des choses. Si vous êtes vacciné, la probabilité que vous allez attraper la rougeole est très, 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 très faible.
À moins que,
toujours la même affaire. Si vous êtes immunosupprimé, donc si vous prenez des médicaments, chimiothérapie, ça se peut que le vaccin soit moins efficace pour vous. Si vous avez vraiment été dans le lieu qui est sur la liste de la santé publique, c'est de rester à la maison tranquille. C'est d'éviter, puis attendre. Bien, je ne vous le souhaite pas, parce que les premiers jours, il n'y a rien à faire. C'est de voir est-ce que je vais développer une fièvre, des courbatures, la rougeole, les premiers symptômes, ça ressemble à une grippe, là, de la fièvre, le petit nez qui coule, j'ai mal partout. Les petits boutons, puis ça apparaît 2-3 jours après le début des symptômes. Fait que c'est de s'isoler. Puis comme je vous dis, vous pouvez appeler au 811. Puis si le 811, l'infirmière voit des choses, voit des choses en sens avec le questionnaire, a certaines interrogations, elle va vous mettre en contact avec la direction de la santé publique qui va pouvoir vous aider.
Toujours excessivement intéressant, très pertinent. On avait un sujet de départ, puis finalement, on est allé un peu
partout. Hein?
Ben oui, j'aime vraiment ça. Élise Berger-Pelletier, urgentologue, merci beaucoup pour ton temps.
Ça me fait plaisir.
Timing, tout était là. Elle avait lu les courriels de sa directrice en plus. Ouais. Tout était parfait. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour ton temps, encore une fois, aujourd'hui. On va quand même faire un petit tour dans la circule avant d'aller en publicité, Véro.
Je vous disais que c'était complexe. Il y a un incident qui s'ajoute à ça. En fait, c'est une panne. Si vous apprêtez à prendre la carrière en direction est, à l'est de la route Jean-Gauvin. La fin de l'accès qui provient de la route Jean-Gauvin est partiellement entravée par un véhicule en panne. On a eu un problème sur Robert Clich en direction nord. Congestion entre la rue Beaulieu et le pont Laporte. C'est un véhicule en panne. Ça s'est résorbé, l'accident comme tel, la panne, là. Mais actuellement, c'est encore complexe quand vous êtes sur la 73 pour accéder à ce secteur-là. Le coin des travaux sur la 20 en direction ouest, c'est très, très lent. Sur Capitale, le problème est en direction est, à partir de la bretelle de Henri IV et ça se résorbe à peu près à la hauteur de Laurentienne. Sinon, pour le reste, c'est au jaune un peu partout, fait qu'il y a beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui. Soyez patients, soyez prudents.
On est là, nous, de toute façon, pour vous accompagner jusqu'à 18h. Donc, même si c'est un petit peu plus long dans le trafic, de l'autre côté de la pause, le Top Corner avec Alex Laramé. Et on va faire le tour des actualités aussi avec Véronique Bergeron. Vous écoutez Le Retour de Boulevard au 102.1. Le Retour.